François, d'abord et avant tout, tu as vu que c'est l'impasse aux États-Unis pour tenter de venir en aide aux citoyens américains?
Oui, tout à fait. C'est un plan de 2 000 milliards de dollars qui est sur la table. 2 000 milliards. C'est là où ils s'entendent pas, là, c'est comment on va venir en aide aux États et aux municipalités. C'est là, là la pierre d'achoppement. Pas Trudeau, mais Trump, il veut rien savoir d'aider les États, notamment que la majorité des États qui sont en difficulté, semble-t-il, selon ce que M. Trump dit, ce sont des États démocrates qui ont été mal gérés.
Ben oui, évidemment. Il dit ça de l'État de New York, il dit ça de la Californie, notamment.
Tout à fait.
Mais nous allons parler et revenir chez nous de la fin du régime du programme canadien d'urgence, la PCU.
Oui, la PCU. Là, il va rester, tu sais que c'était sur 7 périodes et tu avais le droit à 6 à l'intérieur de ces 7 périodes-là à partir du 15 mars. Ça se termine donc le 26 septembre. Pour ceux qui ont commencé au mois d'avril au lieu du mois de mars, là, vous auriez droit donc à la 7e période qui va commencer le 30 août. Mais après, il n'y aura plus de PCU. On va transférer tout le monde sur un système hybride. Ceux qui ont droit à l'assurance-emploi iront sur l'assurance-emploi et ceux qui n'auront plus de PCU vont être transférés dans un système hybride entre la PCU et l'assurance-emploi avec les mêmes règles. C'est-à-dire que si vous voulez, si vous refusez, par exemple, de retourner au travail, malheureusement, vous allez perdre votre aide du gouvernement canadien.
OK. Et ça, donc, l'échéance, ça nous donne encore quoi? 2 mois, 3 mois?
Ça nous donne jusqu'au 26 septembre.
C'est ça, 2 mois.
Oui, effectivement. Alors donc, la 6e période est déjà commencée. Si vous n'avez pas fait votre demande, vous pouvez le faire en ligne auprès de Revenu Canada ou encore par téléphone. Et pour ceux qui sont sur l'assurance-emploi et qui reçoivent encore la PCU, eh bien, pour vous, vous continuez de remplir, moi j'appelle ça des petites cartes, là, parce que je suis de l'ancienne mode, là. Mais il faut se rapporter à tous les 15 jours, donc, pour signifier que vous avez toujours besoin de votre argent et de la PCU. Voilà.
Regardons maintenant les statistiques de l'emploi. J'ai l'impression qu'il y avait... Ah, ça, c'est ma petite sonnette.
Qu'est-ce que c'est, ça?
Non, c'est parce que Thérèse...
J'ai l'impression d'être dans un avion.
Exactement. Avez-vous entendu? C'est comme petit signal.
Mesdames et messieurs, nous allons nous poser pour les prochaines minutes. La température est de 27 degrés. Merci d'avoir voyagé avec nous.
Non, c'est que...
Oui, bon, et n'oubliez pas de garder vos masques.
Ben oui, mais je l'ai. Oui. Oh, que c'est pas un cadeau de prendre l'avion. Je sais pas si tu as vu Félix Séguin de TVA.
Ah oui.
Il est allé en Espagne, il a raconté ça dans le journal.
Je suis pas sûr que je serais allé en Espagne pendant le temps de la COVID.
Moi, Félix, il m'a convaincu de dire, reste donc chez vous. Même si t'aimes l'aviation. Et toi aussi, François, t'aimes beaucoup l'aviation.
Tout à fait.
Parlons des chiffres sur le chômage. Moi, j'ai l'impression que c'est trop bon, c'est trop optimiste. Une bonne reprise de l'emploi en juillet. Le Québec, qui a maintenant un taux de chômage officiel inférieur à 10%. Oui. Dans les circonstances, c'est très bon.
C'est excellent même. Et si ça se poursuit comme ça, qu'il n'y a pas de deuxième vague tout de suite, là, on pourrait, selon les économistes, avoir rattrapé tous les emplois perdus d'ici la fin septembre, du moins au Québec. Mais là, moi, je fais attention, hein, parce que c'est du rattrapage là, qu'on est en train de faire. Là. Au fur et à mesure où on déconfine, il y a des emplois qui se sont créés ou encore ont été rattrapés parce que les gens retournent au travail, c'est pour ça. Là. Mais faut quand même avouer qu'au mois de juillet, c'est beaucoup d'emplois à temps partiel qui ont été créés, non pas des emplois à temps plein.
C'est important.
C'est très important à en tenir compte. Malgré qu'on a récupéré jusqu'à maintenant plus de 70% des emplois au Québec. Mais là-dessus, il y a beaucoup d'emplois qui ont été créés à temps partiel.
Alors, je te pose la question. Autrement dit, c'est un peu comme si c'était une vision un peu déformée. Autrement dit, on a subi le contre-coup là, terrible au niveau des chiffres du chômage avec le confinement, l'arrêt, le Québec en pause. Ben oui. Et puis là, on récupère d'une certaine façon. Mais comment peut-on rallier ces chiffres-là avec des prévisions de 15 000 entreprises à 18 000 entreprises qui pourraient se retrouver dans les prochains mois en difficulté?
Et c'est la raison pour laquelle ce sont des emplois à temps partiel qui sont créés, non pas des emplois à temps plein, Paul. Alors, c'est comme ça qu'on fait le corollaire entre les deux, là. Et oui, effectivement, quand t'as 15 000 entreprises, mais ça, strictement, à 10 employés chacun, là, fait 170 000 jobs. Il nous en manque 240 000 à récupérer encore, là. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir un peu de difficulté à recréer ces 240 000 emplois-là au cours des prochaines semaines. Moi, c'est ce que ça me dit. Tu vois, regarde, en Ontario, par exemple, c'est plus long à récupérer les emplois. Pourquoi? Parce qu'on déconfine moins vite. Alors donc, on est entré dans la phase 3 au cours du mois d'août. Alors, la récupération des emplois qui devrait se faire pendant cette période-là pourrait s'accélérer donc au mois d'août et avoir de meilleurs chiffres que le Québec au cours de la prochaine fois
statistiques. Et comme je disais, l'importance de lundi en particulier, le premier ministre du Québec va nous parler de la stratégie. Québec se prépare pour une deuxième grande bataille. C'est pas garanti, mais... on ne le sait pas. C'est ça le problème, François. Puis en économie, et quand on est chef d'entreprise, quand on ne sait pas, quand on n'est pas capable de prévoir, c'est extrêmement difficile de pouvoir planifier quoi que ce soit dans l'entreprise.
Le pire ennemi de l'économie, c'est l'incertitude.
L'incertitude.
C'est ça. Alors, on nage en pleine incertitude. Qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il faut regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Faut pas se regarder strictement le nombril, dire, regarde, au Québec, ça va quand même bien, pas beaucoup de cas, etc., etc. Ailleurs dans le monde, on recommence à reconfiner.
T'as vu l'Australie?
T'as vu le même Melbourne, un autre état d'urgence pour 6 semaines. Tout le monde, personne n'a le droit de sortir, sauf avoir une permission écrite. Et imagine, en Espagne, on recommence dans certaines municipalités. On commence à regarder en France, en Italie, la même chose. Regarde ce qui se passe en Californie, ce qui se passe en Floride. C'est pas de bon augure, là. Alors, donc, même j'entendais une auditrice qui était interviewée hier par Jean-Luc Mongrain qui mentionnait que eux, ils sont dans une deuxième phase.
Oui.
Alors donc...
j'ai entendu la même entrevue et c'est confirmé. Tu l'as dit, 6 semaines de reconfinement. Puis tu sais, en Australie, c'est l'hiver présentement. Ça n'a rien à voir.
C'est pas nos hivers à nous.
Non, non, non. Mais ce que je veux dire, il fait noir de bonne heure.
Tu sais, oui, c'est ça. Tout à fait.
17h15, le soleil est couché en Australie. Fait que tu sais, déjà le moral dans les talons.
En plus. Ben écoute, ça n'a pas de bon sens.
Alors, c'est très difficile et espérons que ce n'est pas le sort qui sera...
qui nous attend.
Exactement.
Bon. Faut pas que ça arrive un deuxième confinement, là. T'as vu comment les gens, cet été, étaient exaspérés par le confinement.
Ben.
Là, t'en as 1 sur 4 des Québécois qui ne veulent pas le port du masque.
Ben oui.
Tu sais, reviens en arrière, là, puis ces gens-là, ça va être l'enfer.
Alors, cette semaine, le président Trump...
en parlant d'enfer.
Qui en rate jamais une, il est en campagne.
Oui.
Il s'en va visiter une usine où il y a utilisation d'aluminium.
Oui, Whirlpool.
Exactement. Puis là, il dit...
En Ohio.
Il a besoin de l'Ohio. Il a besoin d'autres États aussi s'il veut être réélu. Et il regarde les employés et tout ça. Hey, nous autres, on se fait avoir par les Canadiens. Mais non, vous l'avez déjà dit, Monsieur le Président, et vous avez même mis un tarif de 25 % sur notre aluminium. Ouais, ben on ramène 10 % d'un coup. Alors là, on est reparti dans une petite guéguerre commerciale avec les États-Unis, et le Canada devra répliquer.
Ben, il a répliqué hier après-midi avec des tarifs. C'est œil pour œil, dent pour dent. On veut pas nécessairement une escalade, mais comme disait Mme Freeland hier, faut se tenir debout. Alors, qu'est-ce qu'on a visé, tu penses? On a visé tous les produits qui sont faits à partir d'aluminium. Entre autres, petit message à M. Trump, c'est là que je suis parti à rire. La première chose qu'on a mentionné hier à conférence de presse, a dit « laveuse, sécheuse, réfrigérateur et poêle ». Qu'est-ce qu'on fabrique chez Whirlpool? Exactement ça.
Et je vais donner un autre exemple. Non, mais un autre exemple. Les canettes de bière canettes de boissons gazeuses. C'est un secteur très important d'utilisation, de grande utilisation de l'aluminium.
Oui, tout à fait. Les vélos, les jantes de roue pour les automobiles, les accessoires de tuyauterie, portes et fenêtres. Mais ça, on est capable... ici au Canada, d'en fabriquer de ces appareils-là. Donc, ça pourrait permettre justement aux entreprises canadiennes de pouvoir aller de l'avant et peut-être avoir de meilleurs prix que les concurrents américains par les temps qui courent. Mais ça, c'est une guerre là pour deux États seulement. Tu sais, cette histoire-là, c'est pour deux États seulement qui sont déjà conquis par Trump.
Et l'autre affaire, c'est que les gouverneurs des autres États disent... Hey, un instant, on a besoin de l'aluminium canadien. Au prix actuel, on ne veut pas avoir une surenchère, un tarif supplémentaire. Donc, les autres gouverneurs disent, attention, vous allez pénaliser des entreprises américaines.
10 entreprises américaines qui font partie de l'Association de l'aluminium de l'Amérique du Nord qui ont mentionné, pas plus tard qu'hier encore, que c'était une véritable folie d'imposer ces tarifs-là aux entreprises canadiennes. Entreprises canadiennes qui sont pas tout à fait canadiennes, quand tu penses à Alcoa, entre autres.
Ouais.
Le problème qu'il y a, c'est que, oui, c'est un problème canadien, mais c'est un problème bien plus québécois que canadien, parce qu'oublie pas que 84% des exportations d'aluminium canadien s'en vont aux États-Unis, et que 90% de la production totale de l'aluminium au Canada est fait ici au Québec avec nos 9 usines.
Ouais. Ouais.
Alors donc, ça va nous faire extrêmement mal. En 2018, on avait évalué justement à 3,5 milliards de dollars de pertes avec les tarifs et entre 3 000 et 8 000 emplois qui étaient donc en difficulté en raison de ces tarifs-là.
Ouais.
Alors, c'est la même chose encore aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle on a répliqué dollar pour dollar, donc œil pour œil, dent pour dent.
Une minute seulement pour nous parler du rendement négatif au premier trimestre de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Il y a eu une espèce de mea culpa hier aussi du dirigeant, M. Émond, hein, qui est arrivé juste avant la pandémie. Là. Hier, c'était clair que le problème de la Caisse de dépôt pendant cette pandémie-là, pas assez de GAFA puis trop de centres commerciaux. C'est le résumé, c'est ça, là. Parce que tu regardes dans le domaine des actions. Les actions, ils ont fait moins 8,4. Fort probablement qu'avec le mois de juillet, le mois d'août, on aura récupéré ces pertes-là. Mmh. Mais il en demeure pas moins qu'on n'était pas assez exposé au GAFA. Regarde le S&P 500, les 10 plus gros titres, là. C'est entre autres, bien sûr, le GAFA. Le GAFAM, si on rajoute Microsoft, mais t'as aussi Tesla, t'as aussi les autres. Et sur les 10 principaux titres, c'est 30% de l'indice. Alors que les 490 autres ont fait moins 7% à peu près.
Ben oui.
Alors donc, on n'était pas assez exposé au GAFA.
Le GAFA, évidemment, pour les gens qui se posent la question, c'est le
Google, Apple,
Amazon.
Facebook et Amazon.
Ouais.
Et tu as le GAFAM aussi, il faut rajouter Microsoft aussi maintenant.
Okay.
Ouais, il faut pas l'oublier. Et l'autre problème, puis le problème existait déjà depuis plus d'un an, même avant que Michael Sabia parte, c'est Vanwick and Bridge. Les gens commencent à déserter les centres commerciaux et on est très exposés aux centres commerciaux.
Mais
c'est pas pour rien qu'on a décidé de faire le ménage à l'intérieur de ça.
Et sans parler des grands propriétaires immobiliers commerciaux, des tours,
à bureaux. Oui, puis l'autre c'est ce qu'on appelle les actifs réels.
Ouais.
Et il y a les aéroports là-dedans aussi. Là. On est investi dans les aéroports. Donc, Ivanhoe et Bridge, aéroport égale perte. C'est
alors,
ça que ça veut dire. Moins 2,3.
Merci beaucoup, François Gagnon. Plaisir. Toujours agréable de te parler. Au retour, mesdames, messieurs, Serge Savard. Serge Savard était directeur général du Canadien. Quand on donnait pas une chance aux Canadiens, rappelez-vous Thérèse en 86. Oui, oui, on a le Canadien. Gagne la coupe.
Ouais.
93, mais oui, on a le Canadien. Le Canadien est bien moins fort que telle équipe. Qu'est-ce qui a fait que le Canadien a sorti, peut-être pas deux miracles, ce serait peut-être exagéré, mais mettons deux très grandes surprises. Eh bien, il y avait un gardien au centre de ça. Il s'appelait Patrick Roy. Son surnom était Casso, parce qu'il était tellement petit, c'est-à-dire maigre, mais il avait volé la série en 86, les séries, puis il a récidivé en 93.
C'est vrai que quand on l'avait vu arriver devant les buts, on n'était pas...
voyons donc! Et alors là, on regarde de la façon dont Carey Price a gardé les buts dans cette première série, puis on se dit, coudonc. Alors, on pose la question à Serge Savard, au retour.